Bonjour à tous, chers auditeurs. J'aimerais bien vous annoncer que vous pouvez retourner au stade en grand nombre, mais malheureusement pour vous, les seuls endroits où on veut bien vous envoyer en masse, c'est à l'école et au travail. Un beau cadeau de fête pour célébrer votre labeur. Joyeuse rentrée à tous, notamment à notre jeunesse et à nos enseignants. N'en déplaise aux adeptes du travail, dépense et tais-toi, jaillissent encore des sources de joie, des rues piétonnes pour flâner et magasiner sans trop gaspiller. Une nouvelle génération qui émerge avec les Hassal, Davis, David ou encore Binks. Un humour novateur hispano-torontois dont le premier sketch Pénétration précoce a fait couler beaucoup d'encre. Et bien entendu, votre émission coup franc hebdomadaire qui conjugue divertir à l'informatif et réfléchir au passionnel. Mathias Van Alst au micro avec à mes côtés, quelqu'un qui manie le verbe comme Manuel Neuer manie le gant, Eric Chenois. Salut Eric.
Salut Mathias. Je me remets de mes émotions après cette introduction absolument profondément poétique, dirais-je. Voilà, mais écoute, ça lance bien l'émission et voyons comment la suite va se dérouler.
Avec nous, il est devenu à Québec Soccer ce que Grévis est au bon usage, le rédacteur en chef du magazine Quentin Parisis. Salut Quentin.
Salut Mathias, salut Eric, que dire? Écoutez, je pense que je vais vous laisser parler une bonne partie de l'émission vu comme vous avez l'air en forme.
Bah non, on va commencer par te faire parler toi parce que apparemment il y a un Québec Soccer qui sortirait cette semaine, donc tu peux peut-être nous en dévoiler quelques pans du sommaire. Ce serait intéressant histoire de nous mettre l'eau à la bouche.
Ben absolument. Bah à Québec Soccer, on a pas mal voyagé sur cette édition, tout en restant à Montréal, mais on vous emmène un petit peu à droite à gauche parce que on a fait un petit dossier spécial ouest du pays. Donc il y aura pas mal de choses à suivre, ce qui se passe également. En CPL, on a aussi beaucoup de MLS avec un sujet dont on va parler aujourd'hui, me semble-t-il, et dont on a parlé quand même pas mal cette semaine, c'est les jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses à suivre. Comme d'habitude, nos rédacteurs habituels sont là, Claudine Douville, Marc Touga, toi Mathias et moi. Bref, quelques surprises aussi. Donc, je vous invite à rester connectés. Ça devrait sortir mercredi, disponible sur le site, sur Twitter, dans l'infolettre de la Fédération.
Merci beaucoup Quentin. On va prendre le cours normal de cette émission coup franc qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Vieux-Parc et Québec Soccer, et elle n'existerait pas sans vous, chers auditeurs, car si vous n'étiez pas là pour nous écouter, ben on parlerait dans le vide, et à ce moment-là, autant le faire juste entre nous. Mais non seulement vous nous écoutez, mais en plus vous interagissez, notamment en étant nombreux à répondre à la question en un mot, surtout que cette semaine, le sens du sarcasme de plusieurs d'entre vous a entendu un appel quand on vous a demandé de qualifier le fameux penalty de Toronto lors de son dernier match contre l'Impact. Je dis sens du sarcasme et j'entends Eric rire, alors Eric, vas-y, quel est ton mot ?
Eh bien Mathias, moi, je vais faire plaisir à beaucoup de monde avec mon mot cette semaine, car mon mot est... cirque. Je sens que ça vient te chercher particulièrement, Mathias.
Alors, oui, cirque... d'ailleurs, j'ai déjà une réplique à ça, mais ça sera pour tout à l'heure.
Très bien, alors j'ai très hâte d'avoir ta réplique. Donc, j'ai choisi le mot cirque pour bien des raisons, en fait, parce que toute cette séquence nous a fait passer par toute une gamme d'émotions. Donc, comme si on était assis sous un chapiteau de cirque. On a pleuré en voyant Camacho se faire surprendre par le jeu habituel d'Altidore, comme s'il ne l'avait jamais vu jouer avant. On a eu peur, évidemment. Et l'arbitre qui pointe le point de pénalty, il y a de quoi faire dans son froc, n'est-ce pas? On a été impressionnés aussi quand ce même arbitre a décidé d'annuler complètement le pénalty rocambolesque de nos amis torontois. Et évidemment, on a bien ri en voyant le visage de Pozuelo et de Piatti qui n'en revenaient pas de leur incompétence profonde. Alors voilà, c'est mon mot pour cette semaine. C'était le cirque et c'était typiquement torontois, disons-le.
Je pourrais pas être aussi créatif qu'Éric, parce que dites donc, il a pensé son mot vraiment en long, en large et en travers, et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de mots sur Twitter, et je dois dire que tous étaient plutôt convaincants. Moi, j'ai juste été plus sérieux que le monde, en fait, et je vais parler de leçons, parce que leçons pour les Torontois, parce qu'évidemment, bon, on ne peut dire on peut dire qu'ils ont joué au malin et puis qu'ils ont raté leur coup. Et moi-même, j'ai pris une leçon parce que j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi ce penalty avait été refusé, parce que on en a déjà vu des penalties tirés comme ça, le Barça, Johan Cruyff aussi dans ses grandes années. Bref, et ce sont que deux exemples, il y en a quand même de temps en temps, mais c'est la première fois que je voyais un penalty annulé, en tout cas où il y avait faute. Donc j'ai mis très longtemps à comprendre, il m'a fallu quand même pas mal de recherches, donc j'ai moi-même pris une leçon finalement d'arbitrage sur ce penalty.
De mon côté, mon mot c'est poison. Vous savez, il y a certains poisons qui sont des sources assez incroyables, comme le fougou. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson, qui peut être un mets très fin. D'ailleurs, c'est ce que Pozzuolo a offert à Piatti, deuxième du nom et seulement l'ombre du premier. Sauf que notre ami Piatti, le Torontois, l'a découpé comme un branque et finalement, c'est devenu ce que ça peut être, donc quelque chose de totalement toxique qui a empoisonné l'équipe de Toronto, qui a empoisonné son match, qui a empoisonné les points qui n'ont pas gagné et qui a failli empoisonner beaucoup plus aussi, parce que l'arbitre a pris une décision qui était, je vais pas dire limite, mais il y a beaucoup de choses, on va en reparler un petit peu après, et qui fait que ça aurait pu empoisonner le match, l'arbitrage, parce que si l'arbitre avait pris la mauvaise décision et que ça avait été évident, Toronto aurait pu déposer réclamation et faire rejouer le match. J'explique, c'est que quand un arbitre se trompe sur l'interprétation, donc il pense que un petit croche-pied est un tacle super dangereux et donne un carton rouge, mais il s'est trompé dans l'interprétation. Là, il n'y a rien à redire. Mais quand il se trompe sur l'application d'un règlement, donc si par exemple, je sais pas, moi, on va prendre un exemple très clair, il dit qu'il y a une faute dans le rond central et puis il dit que c'est penalty, on ne sait pas trop pourquoi, mais là, à ce moment-là, il peut y avoir une réclamation, on peut faire rejouer le match. Donc ça aurait pu empoisonner beaucoup de choses, ça aurait pu empoisonner l'organisation professionnelle des arbitres, ça aurait pu empoisonner le calendrier qui est déjà complètement complètement fou et serré. Et ça aurait pu empoisonner évidemment l'Impact de Montréal qui, s'il avait résisté comme il l'a fait et gagné, aurait dû recommencer. Sauf que finalement, c'est pas ça qui est arrivé, parce que vous savez très bien que certains poisons aussi peuvent être certains remèdes à une bonne dose. Et le poison qui a rendu malade les Torontois a soigné, a fait du bien à l'Impact de Montréal qui revient avec 3 points et une énorme dose de confiance. Donc, Quentin, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de mots chez les auditeurs, c'est vrai. Et j'en ai gardé pas mal, parce que c'est vrai que ça allait un petit peu dans plein de directions différentes, et vous vous en êtes donné à cœur joie, donc je vais pas vous priver de ça, même si, évidemment, c'était impossible de tout retenir, tellement il y en avait. Il y a eu, par exemple, légendaire d'Ivan Filipovic, mémorable de Dom Micheletti, inutile de Inan Sarios, merci de Francis, confusion d'Amin Sabri, des bandades de Phil Last, de Salim Daman, burlesque de David Vanier, karma d'Eve Julia, ubuesque de François Baudouin, nul d'Hugo de la Sablonnière, couillu de Ludokin, boulette de Garage Foot, jouissif de Fred Paris ou encore folklorique de Skander Mueli. Et il y a eu aussi pas mal de cirque et de clowns, ce à quoi je m'oppose, parce que au cirque, les artistes prennent des risques et savent ce qu'ils font. Et en représentation, c'est-à-dire en match pour le sport, quand le trapéziste qui lance en trapèze volant son collègue, l'autre de l'autre côté qui doit le rattraper ne lance pas son trapèze trop tôt. Parce que s'il lance son trapèze trop tôt, le type se casse la gueule, il est blessé, surtout quand il n'y a pas de filet, et ça finit très mal. Et ça, on ne le voit pas au cirque, sauf quand c'est fait exprès, parce que parfois, vous ne savez pas, hein, désolé pour ceux dont je vais péter la badoune, mais quand il n'y a aucun risque, ils font semblant de rater pour pouvoir recommencer pour échauffer le public. Mais en vrai, ils savent exactement ce qu'ils font, contrairement à nos amis Pozzuolo et surtout Piatti, qui, parce que lui, il s'est fait servir un truc sur un plateau, et comme un zozo, il s'est avancé trop tôt dans l'arc de cercle devant le grand rectangle.
Ouais, effectivement, les artistes savent ce qu'ils font, mais des fois, les gestionnaires ne savent pas du tout ce qu'ils font.
Ouais, on se demande à qui tu penses, Eric. En tout cas, on va pas essayer de creuser un petit peu dans ton passé professionnel. Mais ici, le gestionnaire, c'était l'arbitre. Et est-ce que l'arbitre savait ce qu'il faisait? En tout cas, honnêtement, vous savez que j'aime bien prendre la défense des arbitres. Et ici, le cas était extrêmement délicat. Et pour être sincère, je sais pas trop vraiment si sur quoi il a basé sa décision, parce qu'on l'a pas entendu après. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que Piatti est rentré dans l'arc de cercle devant le rectangle trop tôt, donc avant que Pozzuolo ne frappe le ballon, ce qui est formellement interdit. Ça, c'est clair, net, pour tout le monde. Donc, non, même pas pour tout le monde, c'est pas vrai, parce que beaucoup de monde disait que Piatti était rentré dans la surface, mais Piatti n'est pas du tout rentré dans la surface, il est rentré dans l'arc de cercle. Le problème, c'est la suite, parce que j'ai été éplucher les lois du jeu, les nouvelles, parce qu'elles changent assez régulièrement ces dernières années, et j'allais dire un petit peu malheureusement, parce que c'est comme ça qu'elles deviennent compliquées. C'est un penalty, c'est pas un tir au but, l'action, elle est continue, hein, parce que quand c'est les tirs au but, ben le tir est arrêté et puis ça s'arrête. Mais là, sur un penalty, le jeu peut continuer, il y a un autre joueur qui peut marquer, on peut faire ce genre d'action. Et donc, les lois du jeu, elles disent que le penalty prend fin, alors là, je cite, « lorsque le ballon arrête de bouger », c'était pas le cas, « lorsque le ballon sort du jeu », c'était pas le cas, ou « quand », et le mot est très important, « quand l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux lois du jeu ». Puis, c'est là que c'est pas tout à fait clair. Parce que l'arbitre doit laisser le penalty aller jusqu'au bout. Mais ça se contredit totalement puisque le penalty s'arrête quand l'arbitre siffle, mais l'arbitre doit laisser le penalty aller jusqu'au bout. Donc déjà, il y a un truc qui marche pas, et il y a un autre truc qui marche pas du tout non plus, parce que dans tous les règlements, dans toutes les situations de jeu, l'arbitre siffle au moment de l'infraction. On est d'accord. Et le jeu s'arrête là. Mais là, l'arbitre doit laisser aller le penalty jusqu'au bout pour savoir si le ballon est rentré ou pas. Parce que si le ballon est rentré et que le penalty est marqué, il faut le retirer. Si le ballon n'est pas rentré, c'est un coup franc en faveur de l'équipe qui défendait. Donc Montréal dans ce cas. Donc il faut laisser le penalty jusqu'au bout. Donc là, il y a déjà un problème. Et donc aussi, il doit prendre une décision par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. C'est quelque chose qui ne marche pas parce que nulle part il est écrit que c'est le tireur qui doit marquer le penalty. Nulle part dans les règlements. Un hors-jeu, par exemple, l'action elle s'arrête au moment du hors-jeu. Et donc, interprété à la lettre, ça veut dire que le penalty devrait être retiré si l'arbitre, avec le camp de tout à l'heure, le penalty devrait être retiré si l'arbitre a sifflé après le but, peu importe la manière dont a été tiré le penalty, et qu'il doit y avoir coup franc indirect s'il a sifflé avant. Puisque c'est au moment où l'arbitre siffle que le penalty prend fin. C'est n'importe quoi, c'est loufoque, mais c'est ça que dit le règlement à la lettre. Et le règlement à la lettre, honnêtement, c'est totalement n'importe quoi. Mais moi, je fais juste vous le donner. Hein. Je dis pas que je suis d'accord avec. Et si Toronto s'était plaint après, en prenant le règlement à la lettre, ils auraient peut-être eu des arguments, même si on prend l'esprit du règlement ou si on prend les anciens règlements tels que donnés par exemple par Émile Archambault, à qui on fait souvent référence ici parce que il a une grosse connaissance des lois du jeu et c'est quand même une référence. Le but a été logiquement annulé.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'arbitre a été courageux sur ce point-là. Après, qu'il ait raison, qu'il ait adapté le règlement ou pas, etc. Ça, c'est un débat finalement qui peut être sans fin, comme certains buts restent toujours un petit peu dans l'histoire pour tout un tas de raisons obscures ou ici, dans ce cas-ci, le non-but. Mais en tout cas, il a assumé sa décision. Il avait l'air sûr de son coup. C'est quand même assez notable de souligner ça, parce que c'est pas une situation qui arrive souvent. Des pénalties tirées de cette façon-là, il y en a, mais très 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 peu. Donc c'est un point de règlement qui est compliqué. Tu l'as exposé, Mathias, qui est difficilement applicable même parce que.
Qui est mal écrit, qui est mal pensé.
Ouais, c'est ça exactement. C'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi. Donc, parce qu'une loi mal écrite, c'est une mauvaise loi. Donc c'est au moins on peut donner ce crédit-là à l'arbitre d'avoir pris sa décision, d'avoir été relativement sûr de son fait. Et derrière, Toronto n'ayant pas donné suite, en tout cas à ma connaissance, c'est que quelque part ils ont accepté la décision de l'arbitre. Donc il y avait sans doute pas tout à fait tort là-dessus, mais en tout cas moi c'était vraiment la première fois que je voyais ça, surtout une faute sifflée pour l'impact. Finalement, c'était vraiment vraiment étonnant.
Bah, y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus, je pense. Pour moi, c'est quand même assez clair. Je veux dire, s'il y a un hors-jeu, maintenant, avec le hors-jeu qui est décalé parce qu'on le siffle plus immédiatement dès qu'un joueur est hors-jeu, des fois, le joueur, il continue son action et quand il touche au ballon, on siffle. Pourquoi? Bah, parce qu'il avait pas le droit de toucher au ballon. Et si un type se présente pour tirer un penalty, il tire, tape le poteau, personne touche au ballon, le ballon lui revient, il retouche pour le remettre dans le but. Le but est bon? Non. Il n'a pas le droit de toucher au ballon. Donc, on arrête le jeu. Coup franc indirect. Ben, dans ce cas-ci, Piatti, il n'avait pas le droit de toucher au ballon. On a arrêté le jeu. On a donné un coup franc indirect. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est pour ça que l'arbitre n'a pas hésité.
C'est comme ça que ça doit passer, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui est dit le règlement.
Et puis après?
Ah bah oui, et puis après, l'arbitre, il applique le règlement.
Mais non, Mathias, t'encules des mouches, là.
Et lui, t'es un rebelle.
Je suis désolé. Je veux dire, là, tu t'en vas lire entre les lignes, et puis blablabli, et puis le penalty est pas terminé. Bah, le penalty, il est terminé au moment où Piatti met le pied dessus, c'est tout.
Non, c'est pas ce que dit le règlement, je suis désolé, le pénalty n'est pas terminé. Non, ça dit quand l'arbitre siffle.
Bah, il a sifflé.
Oui.
Donc, le pénalty est terminé.
Oui, mais est-ce qu'il a sifflé avant que le ballon soit dans le but, j'en sais rien.
Mais tu racontes n'importe quoi, Mathias.
Non, je lis le règlement. Je ne fais que lire le règlement.
Oui,
le règlement est faux, d'accord. Mais
autant quand même qu'il y a eu des pénaltys tirés comme ça et ça a été but. Donc, il y a
déjà, prends celui de Suarez, là, pour Barcelone. Pour la petite histoire, c'était une entente entre Messi et Neymar, et puis Suarez, il sort de nulle part et il va mettre le ballon dans le but, de un. De deux, si tu regardes la reprise, en sachant ce que tu sais maintenant, après avoir vu le Pozzuolo show, là, tu regardes ce penalty-là, et tu arrêtes au moment où Messi met le pied sur le ballon, et Suarez, il est où? Dans l'arc de cercle.
Ben voilà, c'est bien ce que je dis.
L'arbitre a raté son coup.
Mais moi honnêtement je m'insurge pas contre l'arbitre, parce que l'arbitre de nouveau c'est vraiment compliqué sa tâche et je veux plutôt le défendre. Moi je m'insurge en fait contre ces changements de règlement qui deviennent sans queue ni tête, et je vais en prendre un autre, celui de la semaine précédente, nouveau le penalty que Maciel a concédé. Je suis désolé, mais là aussi c'est n'importe quoi, et l'arbitre quand il siffle le penalty pour Toronto contre Maciel, il a raison, c'est ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, il reçoit une mauvaise note et donc il risque de siffler des moins bons matchs, d'être rétrogradé dans la hiérarchie des arbitres de MLS. Donc il n'a pas le choix. Maciel, oui, son bras élargit artificiellement la largeur de son corps et de son épaule.
Mais on est d'accord avec ça. Il va pas couper le bras.
Donc c'est pour ça en fait.
100% d'accord.
Là où je veux m'insurger, c'est contre ces changements de règlement incessants qu'il y a et que finalement ça devient n'importe quoi.
Il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter sur ce penalty. Je m'oppose un petit peu quand même à l'analyse, par exemple celle qu'a fait Clément Diop, pour dire que c'était un manque de respect, etc. Alors oui, ils ont fait les malins, ils ont raté leur coupe, ils ont l'air bêtes, et puis ça, ils l'ont bien mérité. Par contre, j'ai pas trouvé que c'était un manque de respect, j'ai pas trouvé que c'était une provocation particulière, parce que, un, ça avait déjà été fait, et deux, il y a mille façons de tirer des pénaltys. On l'a vu, par exemple, Wondolowski a encore marqué sur une Panenka, un peu ratée d'ailleurs, mais la balle rentre à 2 à l'heure dans le but, et il y a but, et donc le gardien avait bien des raisons d'être énervé, mais ça fait partie du jeu. Et il faut quand même souligner le fait que le soccer, c'est un jeu où il existe des petites humiliations et où ça fait vraiment partie, entre guillemets, du charme du soccer, dans le sens où le petit pont, par exemple, a longtemps été considéré comme une humiliation. Il l'est toujours un peu, d'ailleurs. En tout cas, on le souligne à chaque fois qu'il y a un petit pont. Il y a quand même des O et des A qui sortent des tribunes quand il y a un petit pont. Et donc, bref, ces façons de jouer qui peuvent être agaçantes, provocantes, etc., font partie du jeu. Donc, je trouve pas ça spécialement négatif, le fait d'essayer de faire des choses comme ça. Par contre, il vaut mieux les réussir, parce que sinon ça se passe mal, et il arrive ce qui est arrivé ce coup-ci.
Tout à fait d'accord avec toi, mais encore là, il faut apporter un bémol à ce que tu dis. Je veux dire, c'est 2-0, t'essayes un truc, un penalty truqué du genre, et puis tu le rates, ça va, c'est bien, c'est pas grave, on a essayé. C'est juste une petite tape sur les mains de l'adversaire, quoi. Mais quand tu le fais, quand t'es mené 0-1, là, c'est une insulte.
C'est surtout une connerie.
C'est une connerie.
Un manque de professionnalisme.
Un manque de professionnalisme, mais c'est aussi irrespectueux. C'est franchement irrespectueux, parce que tu dis, tu sais quoi, on perd 1-0, alors on va faire les guignols avec notre penalty, parce que de toute façon, au bout des 90 minutes, on va avoir marqué 3 buts. C'est ça que ça
c'est un manque de professionnalisme. Être trop sûr de soi, c'est un manque de professionnalisme. C'est pas être. La preuve, c'est qu'ils ont perdu à la fin. Donc, c'est pas.
C'est un manque de respect pour l'adversaire.
Moi, je trouve pas. Mais quand bien même ça en serait un, bon, je serais pas choqué. Je serais pas choqué parce qu'il y a mille façons d'humilier l'adversaire et je dis pas, valide pas. Hein, je valide pas.
Pour moi, c'est aussi irrespectueux. C'est aussi respectueux que de célébrer comme si t'avais gagné la Coupe du Monde quand tu marques le but du 8-1, quoi. Tu sais, je sais pas. Il me semble que, enfin, moi, je l'ai vu comme un geste irrespectueux aussi. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as pas dit. Moi, j'ai pas trop.
Je vais pas trancher, mais je vais donner l'avis d'un autre joueur parce que Diop n'est pas le seul à avoir réagi et Rudy Camacho aussi a réagi. Il allait plutôt dans le sens de Quentin. Il a dit bah ouais là ils ont raté donc ça en fait parler, mais s'ils avaient marqué tout le monde aurait dit bien joué, et pour moi non plus c'est pas un manque de respect, c'est une façon de tirer un penalty. Voilà, même au sein de l'équipe les avis sont divergents. On vous laisse vous faire le vôtre.
Je pense que j'ai un avis de gardien en fait, c'est pour ça.
Peut-être.
Ah, mais alors, on n'a pas le droit à la Panenka, on n'a pas le droit à plein de choses alors quand on prend l'avis de gardien quoi.
C'est ça, parce que Panenka 3 ou ça. C'est pareil, quoi.
Ah oui, je suis d'accord. C'est pareil.
Bon.
Je pense que même ça, c'est moins pire qu'une Panenka.
Non. Non, parce que la Panenka, t'as quand même beaucoup plus de chances de réussir. Ah, parce que c'est un tir direct au but. C'est direct au but.
Ouais, mais ça a du 2 à l'heure, souvent.
Ouais, et puis bon, il faut voir. Il y en a qui ont tenté ça et qui l'ont raté. Ça a coûté cher à leur club, hein. Donc,
je sais pas, moi, la Panenka ou le tir en force en plein milieu du but, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas.
Il y a quand même une volonté dans la Panenka, tu peux pas dire. Il y a quand même une volonté de se jouer du gardien dans la Panenka. Et encore, quand je dis se jouer du gardien, c'est pour pas être grossier, tu vois.
Ah, l'objectif du tireur de penalty, c'est de se jouer du gardien. Hein.
Non, c'est pas de se foutre de la gueule du gardien.
Ah, mais je sais pas. Moi, j'ai été gardien.
Même si c'est autorisé, puisque l'humiliation fait partie du soccer. Tu vois, j'en reviens toujours à mon point.
c'est un jeu. C'est un jeu entre le tireur et le gardien, toujours.
Ah là, c'était rien.
C'est pour ça que tu vois souvent.
Bah, mais non, justement.
Tu vois souvent des gardiens.
Tu viens de le dire, là. C'est un jeu entre le tireur et le gardien. Et ça te fait chier que le tireur ne soit pas le tireur. Parce que c'est un autre qui tire. Et c'est ça qui vexe les gardiens, peut-être. Parce que c'est un autre qui va
tirer. Peut-être.
Voilà. Bon, peut-être. Parlons du match. Parce que n'oublions pas que Montréal a gagné à Toronto. Il n'y a pas juste Toronto qui s'est fait pointer du doigt pour son penalty. Il y a quand même, parce que moi je veux bien que Toronto ait raté un penalty, qu'il soit raté de cette façon ou d'une autre. Et Toronto a encore eu 45 minutes pour revenir à la marque et ils n'y sont pas arrivés. Et Montréal, au contraire, a eu de belles occasions en deuxième mi-temps. Et Eric, tu voulais nous parler de l'état d'esprit de cette équipe montréalaise à Toronto.
Ouais, ben en fait j'ai trouvé de ce que j'ai vu, parce que bon, quand on n'est pas au stade, c'est un peu difficile de juger sur tout ce qu'on peut voir habituellement quand on a la chance d'être sur place, mais pour moi il y avait un fort contraste entre le match à Montréal et celui à Toronto, dans ce sens que j'ai trouvé les joueurs beaucoup plus je vais dire positifs dans leur façon de jouer. À Montréal, ils ont défendu, mais ils s'en sont tenus à s'assurer que le ballon passe pas ou que l'adversaire passe pas. Alors qu'à Toronto, on sentait que ça défendait avec une idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'on voulait récupérer le ballon et on voulait faire quelque chose avec. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positif. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment ça. Un changement de mentalité quand même assez marqué, là. Surtout de ce qu'on connaît de l'Impact à Toronto. Généralement, quand l'Impact va à Toronto, c'est difficile, ils ont un peu peur, ils se retiennent. Mais cette fois-là, ils sont montés sur le terrain, et puis ils ont bousculé l'adversaire, quoi. Ils ont pas eu peur, ils se sont présentés sur le ring, et puis ils ont rendu coup pour coup. Donc moi, j'ai trouvé ça pas mal plus positif que le match à Montréal.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Et il y a un élément que j'aurais bien voulu voir, c'est la causerie d'avant-match de Thierry Henry, parce que j'y ai vu quand même la touche de Thierry Henry dans ce match, parce que évidemment, il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait beaucoup d'enjeux au classement de la MLS. Il y avait aussi beaucoup d'enjeux pour le championnat canadien. À l'issue de la défaite au Stade Saputo, c'était comme si on avait déjà tiré une croix sur le championnat canadien. Or, ce match vient quand même pas mal relancer la course. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux et sans doute le fait de souligner ces enjeux a permis aussi à Thierry Henry de motiver ses joueurs. En tout cas, je le suppose. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu interprété ce changement mental, parce que l'animation, en tout cas la mise en place, était quand même globalement la même, et il y avait toujours des qualités et des défauts habituels chez l'Impact, mais c'est sûr que dans l'état d'esprit, il y avait vraiment un changement notable. Et je me suis dit que Thierry Henry avait dû réussir à booster ses troupes sur cet aspect-là. Et bon, malheureusement, on n'a pas accès à ces causeries, on n'a pas accès à ces moments de vestiaire, etc. Là où quand même il y a des choses qui se passent, il faut pas. Oui, il y a la tactique, oui, il y a la mise en place, etc. Mais c'est évident que le côté motivation demeure un facteur important. Donc il y a aussi cet aspect-là la présence de Thierry Henry et son état d'esprit, je pense, a fonctionné sur ce match-là. En tout cas, j'en ai pas la certitude, j'ai pas les éléments factuels pour me baser là-dessus, mais c'est l'impression que ça m'a fait.
En tout cas, un de ceux qui incarnait le plus la motivation à mes yeux, moi, c'était Kyoto, qui à un moment donné, en deuxième mi-temps, on voyait qu'il était à bout de force, qu'il n'en pouvait plus, et ça faisait un moment, mais chaque fois qu'il y avait le ballon, notamment sur la dernière action où il est sorti sur blessure, parce qu'il n'en pouvait plus, il est tombé après, il se donnait à fond, quoi. Il était après, on le voyait revenir en marchant, essoufflé, que c'était difficile, ou même quand on le voyait dans un coin de la télé, quand c'était pas dans sa zone et tout, qu'il devait pas trop bouger. On sentait qu'il en avait marre, mais que physiquement, il commençait à ne plus en pouvoir. Mais quand il fallait qu'il fasse l'effort, je pense qu'il a vraiment, vraiment, vraiment incarné cet état d'esprit-là. Mais collectivement aussi, la deuxième mi-temps, moi, m'a fait très bonne impression, parce que vous le disiez tous les deux, Eric par rapport à la peur d'être à Toronto et Quentin par rapport à la volonté positive, c'est qu'il y a eu de super belles remontées de terrain en deuxième mi-temps, et que quand l'Impact dégageait, même quand c'était entre guillemets précipité, il y avait toujours quelqu'un qui essayait de se positionner pour recevoir le ballon, et on prenait quand même la petite seconde nécessaire pour, quand on dégageait loin devant, essayer d'au moins viser quelqu'un, et souvent avec réussite. Et quand je dis réussite, je ne dis pas ça comme synonyme de chance, mais bien comme synonyme de travail et de choses faites exprès et qui ont fonctionné. Et il y a eu quelques magnifiques remontées de terrain, notamment une, je me souviens, où il y a eu des gestes assez splendides de Maciel et Kyoto. Ça s'est fini par un centre de Raïtala beaucoup trop haut, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé avant, c'était vraiment très très bien joué, c'était vraiment un très beau mouvement collectif, et c'était très agréable à regarder, sans oublier qu'en deuxième mi-temps, Toronto a dominé, Toronto a poussé, mais c'est pas créé tellement d'occasions que ça, donc c'est aussi positif par rapport à la défense. Et je rajouterais dans les éléments positifs que l'Impact a marqué son troisième but sur corner de la saison, et puis bon, ouais, on est au mois d'août, mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs de jouer. C'est quand même très bien aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en MLS qui font mieux. Je pense qu'au moment du match, il y en avait deux. Il y a eu d'autres matchs depuis, donc j'ai pas vérifié. Mais ça aussi, c'est quelque chose quand même de très bien. Donc il n'y a pas juste les 3 points qui sont un enseignement positif. C'est pas comme le nombre de matchs dans l'histoire du club où on s'est dit, ah, ils ont gagné, c'est bien, c'est bon pour le moral, on va garder les 3 points, c'est tout. Là, il y a quand même beaucoup d'autres choses. En dehors du contexte, en dehors de Toronto, en dehors de tout ce qu'on peut voir avec rivalité par rivalité, etc., dans le jeu sur lequel bâtir et sur lequel continuer, et ça c'est bien aussi.
Ouais, puis ils ont réussi à maîtriser les joueurs clés de Toronto. Je pense que ça a été aussi ça le tournant du match, c'est-à-dire que la colonne vertébrale, Camavinga, Bradley, Pozuelo, Altidore, ça a quand même été muselé, donc il y a eu quand même une belle préparation qui a été faite, une prise de conscience, je sais pas trop comment il faut l'appeler, mais ça a été quand même assez solide du côté de l'Impact sur cet aspect-là.
En dehors de l'état d'esprit, d'ailleurs, il y a des, moi j'ai fait ma liste là il y a quelques instants, des d'autres enseignements positifs que vous tirez.
Ben, je pense que ce qu'on peut retenir, en fait, et tu parlais de la statistique du troisième corner marqué cette année, je pense que on peut remarquer un certain travail qui a été fait sur les phases arrêtées, offensives surtout, et puis ça c'est positif, et puis ça donne des résultats, donc c'est très bon, je pense.
Ouais, les corners, les contre-attaques aussi, il y avait du mieux, il y a des automatismes qui se créent là-dedans, donc c'est bien, c'est encourageant, et certaines individualités aussi, je pense que Maciel a encore confirmé le bien qu'on pensait de lui, et Kyoto aussi, et puis d'autres, donc c'est encourageant. Et l'Impact de Montréal, finalement, avec ce résultat, et avec la défaite de Toronto à Vancouver samedi, est totalement dans la course pour finir en tête de ce mini championnat du Canada au sein de la MLS, qui permettrait de se qualifier pour la finale de la Coupe contre le vainqueur du tournoi dans les Maritimes de la CANPL. Est-ce que vous pensez que les chances de l'Impact de Montréal, évidemment là on parle avant le match à domicile contre Toronto, sont grandes, moyennes, petites
En tout cas, les chances sont moyennes, parce qu'il reste des matchs, qu'il y a quand même eu des hauts et des bas si on compte ce début de mini-championnat. L'Impact avait fait un bon match contre les Whitecaps qui avaient été mauvais, mais qui, d'un autre côté, sont capables de battre Toronto. Toronto avait fait forte impression quand même à Montréal en montrant une certaine certitude dans ses forces et a gagné sans trop forcer, mais ils se sont ramassés la semaine suivante à domicile. Donc, il y a quand même, je veux dire, tout est ouvert. C'est difficile de faire de l'Impact un vrai favori pour ce tournoi, parce que, enfin, en tout cas pour cette qualification, parce que c'est ça, il y a eu des hauts et des bas dans chacune des équipes. Après, c'est sûr que le fait de jouer Vancouver deux fois peut apparaître comme un avantage, mais on est sûr de rien. Vancouver, et même si on les a pas vus face à Montréal au Stade Saputo, il y a de la qualité. La preuve, c'est que quand même, ils en ont mis trois à Toronto, ce qui est pas évident. Et puis, je suis pas certain que l'Impact était capable d'en mettre autant. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Ce qui est bien, par contre, c'est que l'Impact est toujours en course et que le match contre Toronto, évidemment, il faudra pas le perdre au Stade Saputo, ça c'est une évidence. Après, un match nul peut aussi être convenable dans cette course, donc ça serait pas un drame non plus que ça se termine sur un match nul.
Ben, si on regarde le classement, je pense que c'est l'incendie à Toronto là en ce moment. Ils ont pas le choix de gagner à Montréal. Parce que s'ils ne gagnent pas à Montréal, et même en gagnant à Montréal, il faut quand même qu'ils espèrent des résultats positifs de l'autre côté aussi. Donc c'est loin d'être joué pour Toronto. Vancouver, ça reste quand même assez loin. Il faudrait qu'ils réussissent à gagner deux fois contre l'Impact, que Montréal batte Toronto et puis qu'ils fassent beaucoup de buts contre Montréal. Donc c'est un long shot, comme on dit, pour Vancouver. Donc vraiment, l'équipe la mieux placée en ce moment dans les trois, c'est Montréal. C'est quand même assez clair. Maintenant, ben, comme Quentin dit, ce qu'on a vu depuis le début de cette, on va dire, la phase 2 du championnat, je pense que ça n'a pas toujours été positif. Donc, ça peut vite se revirer contre les hommes de Thierry Henry. Mais en ce moment, je pense que les commandes sont entre les mains de l'Impact. Puis c'est à eux de gagner, quoi, donc voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on peut dire que Montréal a son sort en main, dans la mesure où c'est la seule équipe qui va jouer tous les matchs qui restent. Après, évidemment, Toronto a aussi un peu son sort en main, parce qu'en gagnant à Montréal, ils vont faire un pas, un grand pas même, vers la qualification, puisqu'ils auraient 6 points d'avance et qu'il resterait 6 points à prendre pour Montréal. Donc Montréal serait obligé de gagner deux fois à Vancouver, et la différence de but aussi aura une importance. On peut quand même se poser des questions, notamment après avoir vu le match Vancouver-Toronto. Je vais commencer par parler de Vancouver, parce que on va parler du match Montréal-Toronto par la suite. Mais je sais pas si vous avez regardé tout le match ou juste des extraits, mais de ce qu'on a vu du match de samedi, est-ce que Vancouver finalement n'est peut-être pas si faible ce qu'on aurait pu croire après son déplacement ici, où honnêtement il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, et est-ce que ce double déplacement en fait en Colombie-Britannique ne serait pas un piège pour l'Impact de Montréal? Ou alors est-ce que finalement c'est les circonstances qui leur ont permis de battre Toronto, mais normalement il y a moyen de prendre les points, peut-être pas le 6 sur 6, mais en tout cas on va dire en cas de match nul mercredi, les points nécessaires finalement à la qualification pour l'Impact.
Il y a un peu de tout ça en fait. Je pense que oui, Vancouver a plus de talent que ce qu'ils ont démontré. Oui, Vancouver à domicile, c'est autre chose que Vancouver sur la route, surtout... quand on les a vus au Stade Saputo, ils étaient à leur troisième match sur la route en quoi une semaine et demie, quelque chose comme ça. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé contre Toronto, c'était encore de la défensive, un petit peu folklorique du côté des Torontois. Donc Oui, d'accord, ils leur ont mis 3 buts, mais Toronto était un peu la victime consentante là-dedans aussi, donc c'est un peu difficile à juger, mais bon, c'est une chose qui est sûre et certaine, c'est que ils vont certainement pas se présenter aussi amorphes qu'ils l'étaient au Stade Saputo, donc il va falloir faire attention, ça c'est sûr.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il va falloir faire attention parce que Vancouver, c'est typiquement l'équipe qui est en construction en début de cycle. Alors vous me direz, ça fait pas mal d'années qu'on dit ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes joueurs sur le terrain, beaucoup, et que bah, ils peuvent avoir des très bons jours aussi, qu'il peut y avoir quand même de bonnes surprises à Vancouver. Donc c'est évidemment un élément à prendre en compte. Il peut aussi y avoir des jours catastrophiques comme celui qu'on a vu quand ils sont venus à Montréal. Donc faut quand même pas prendre Vancouver à la légère. C'est sûr qu'ils sont en bas de classement, mais ils ont quand même aussi des enjeux de leur côté. Ils sont pas détachés. Ils peuvent parfaitement remonter dans le classement de la conférence Ouest. Ils ont même tout intérêt à prendre des points contre Montréal parce que les équipes qui sont devant elles, en général un match de moins, voire 2 pour Dallas. Donc il est évident que pour Vancouver, il faut pas perdre trop de points là sur les matchs qui arrivent parce que dans ce cas-là, ils peuvent finir détachés assez rapidement. Donc il y aura quand même des enjeux à prendre en compte et il y a la possibilité que les jeunes fassent un bon match, que Cavallini se montre réaliste, ce qu'il avait pas ça avait pas été le cas à Montréal. Donc il faut quand même le souligner. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Après ça reste Vancouver, donc il faut quand même pas non plus en faire une équipe dominante et puis avoir peur de Vancouver, mais simplement, ça nécessitera le même degré de concentration finalement que celui qu'on a vu contre Toronto.
Ouais, puis Vancouver, tu parles des jeunes, Quentin, c'est vrai que ces jeunes, bah, à chaque match, ils prennent un peu d'expérience et les automatismes commencent doucement à se construire. On est très 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 loin d'avoir quelque chose d'abouti, mais au moins, on va dire que défensivement, que les joueurs se trouvent mieux à la relance, donc on voit qu'il y a des progrès et qu'il y a aussi plus de confiance de la part de joueurs qui savaient pas trop où ils en étaient. Donc c'est clair que Vancouver est en progrès, petit pas par petit pas, et croit qu'il peut créer la surprise parce que c'est quand même une équipe qui peut aussi beaucoup marcher à la confiance. Si Assal sort encore un super grand match comme il l'a fait contre Toronto, faudra aussi s'en méfier parce que oui, il a encaissé 2 buts, mais sans lui, c'est un tout autre match et un tout autre résultat, ça ne fait aucun doute. Et je pense que bon, Montréal a quand même largement les moyens d'aller s'imposer là-bas, mais comme tu l'as dit, Quentin, faudra pas les prendre à la légère. Alors l'autre morceau de cette question-là, je pense que la réponse est un peu plus évidente vu leurs deux derniers résultats. Est-ce que finalement Toronto est moins fort que ce qu'on pouvait penser au début du tournoi et même après leurs 3 premiers succès?
C'est toujours délicat. Rappelle-toi, l'année dernière, Toronto avait aussi eu des phases de creux, puis finalement, ils se sont quand même pas mal relevés. Donc, faut toujours se méfier. Je pense qu'il y a toujours de la qualité à Toronto. C'est sûr qu'ils ont des défauts. Puis, il y a eu aussi quand même des éléments qui ont pas été dans leur faveur. Là, le penalty, on a beau dire, c'est quand même aussi un tournant du match. Donc, il faut le prendre en compte. S'ils n'avaient pas fait vraiment n'importe quoi et qu'ils l'avaient joué entre guillemets de façon habituelle et qui revenait à un partout, c'était peut-être que finalement ils en mettaient 3 à la fin du match. Donc c'est quand même faut faire attention. Il y a eu des événements et un petit peu de chance et tout un tas de choses qui ont donné le résultat qu'on a eu, mais c'était quand même pas non plus le néant complet du côté de Toronto. Donc il faut continuer à prendre Toronto au sérieux parce que on avait dit la semaine dernière que Toronto c'était la première équipe canadienne et que disons que sur le papier le classement était clair entre Toronto 1, Montréal 2, Vancouver 3. C'est pas une semaine, même si la semaine a été vraiment mauvaise du côté de Toronto, et ça il faut quand même le dire, mais c'est pas une semaine qui change tout, en tout cas sur le long terme.
Moi, de mon côté, je te rejoins aussi. Je pense que Toronto a quand même largement dominé contre l'Impact et contre Vancouver, et que il y a eu Diop et Assal qui ont sorti tous les deux un très gros match. Et finalement, sans les gardiens, les résultats sont quand même assez différents. Évidemment, ils sont là pour ça, c'est leur métier, puis ils le font très bien. Sauf que tu peux pas compter sur des miracles de tes gardiens match après match contre ce genre d'équipe-là. Et ça reste quand même une bonne équipe. Il y a eu quelques faiblesses défensives. Faut dire que l'équipe a un petit peu tourné et C'est vrai que le banc à Toronto, parfois c'est un petit peu plus difficile. Et le gros problème de Toronto, et ça commence à dater, à être compliqué, c'est surtout qu'ils se créent énormément d'occasions. En fait, ils ont besoin de se créer énormément d'occasions pour marquer un but. Et ça, parfois c'est le gardien, parfois c'est le poteau, parfois c'est il tire juste à côté, parfois c'est un mauvais choix dans le dernier geste. Sauf qu'à un moment donné, faut les mettre au fond. D'ailleurs, c'est ce que Greg Vanney disait calmement à la mi-temps contre Vancouver, mais je pense qu'il le dit assez régulièrement. Et ça va être quand même quelque chose à corriger du côté de Toronto si on veut rester compétitif et finalement être au niveau sur le terrain qui est censé être et celui qu'on donne sur le papier en fait.
Rien à ajouter.
Bon, on parle de Toronto et justement, je viens de parler des miracles des gardiens, notamment de Diop qui a fait un très grand match en Ontario. Qu'est-ce qui, selon vous, est nécessaire à l'Impact pour que il l'emporte ou au moins fasse un match nul sans avoir besoin de miracles de son gardien de but?
Être plus entreprenant avec le ballon, quoi. Parce que ce qu'on a vu à Toronto, c'est que oui, il y avait de l'idée, on défendait et puis après on avait à cœur de faire quelque chose avec le ballon. Et puis comme tu l'as souligné, ça a mené à quelques belles remontées de terrain en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'il faut que ça vienne plus tôt dans le match. Il faut amener le ballon jusqu'au gardien adverse plus souvent. Je pense que plus le ballon est proche du gardien adverse, plus il est loin de ton gardien. Donc logiquement, tu devrais avoir moins besoin de faire appel à Diop si le ballon est plus loin de ta cage. Donc je pense que c'est ça, être entreprenant, amener le ballon, peut-être plus de possession aussi. Mais bon, c'est sûr que contre Toronto, c'est pas toujours non plus la meilleure chose à faire. Donc peut-être un équilibre de tout ça finalement.
Oui, il faudra quand même aussi défensivement être très très solide parce que même si Toronto a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, Toronto est la deuxième attaque de la conférence, c'est la quatrième attaque en MLS, donc il y a quand même de la qualité devant, il faut quand même faire attention à ça, donc ça c'est aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que la défense, Diop, oui, mais ceux autour doivent faire un gros match pour couper les ambitions ontariennes, parce qu'il y a quand même, il va falloir faire attention à ça aussi.
Ouais, et puis il va falloir aussi ne pas hésiter à provoquer. On a vu, il y a eu le but sur corner de Camacho, mais Baldissimo, il marque sur coup franc, Nervinski aussi, c'est après un coup franc. Taider, lui, il a marqué deux pénalties aussi contre Toronto, donc c'est pas toujours discipliné du côté de Toronto, donc faut pas hésiter non plus à aller chercher la petite faute, la petite erreur et à se créer des phases arrêtées. On a parlé des progrès de l'Impact en phases arrêtées, donc peut-être que les faire plier là-dessus, ça pourrait être un argument supplémentaire pour les hommes de Thierry Henry. Et en plus, quand c'est des choses que tu travailles à l'entraînement, que ce soit les phases arrêtées ou autre chose d'ailleurs, et qui se reproduisent en match, c'est bon pour la confiance et c'est bon pour la suite de la saison. Là, on parle de ce qu'il faut pour battre Toronto. Maintenant, est-ce que vous vous attendez à quelque chose de particulier de ce match-là?
Question surprise ici. à quoi on s'attend? Je sais pas, franchement. Peut-être un petit peu la même chose que ce qu'on a vu dans les deux premiers, mais peut-être avec plus de confiance du côté montréalais, et que ça a fonctionné quand même deux fois, faut pas l'oublier. Hein. Même s'ils ont perdu le premier match, Toronto a pas non plus marqué 14 buts sur ces deux matchs-là. Hein. Ils ont marqué un but sur penalty et c'est tout. Donc c'est quand même assez solide derrière. Maintenant, comme je disais, pas avoir peur non plus de jouer au ballon quand c'est le temps. Donc peut-être plus de confiance du côté de l'Impact.
Moi, j'ai pas d'attente, j'ai plus des curiosités. En fait, j'ai de la curiosité vis-à-vis de ce match-là pour voir si Thierry Henry va reconduire les mêmes hommes, le même schéma, va un petit peu insister sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs en termes de mise en place, parce que c'est sûr que ça a pas mal bougé. On avait même eu des avis un peu différents sur est-ce que c'est fait pour durer ou non. Donc il y a quand même quelques questions qui se posent. C'est tellement difficile de prédire une quelconque mise en place, une quelconque tactique. On s'y est risqué, puis souvent on a perdu. Alors je vais éviter de le faire cette fois-ci. Donc c'est plus de la curiosité. Je suis curieux de voir ce qui m'attend contre Toronto, sachant que, comme on l'a dit, c'est un match quand même charnière parce que un match nul ou une victoire, ça ouvre quand même d'autres perspectives, alors qu'une défaite, évidemment, Toronto s'en va devant. Donc il y a quand même des enjeux, et ce qui rend cette rencontre intéressante.
De mon côté, j'ai aussi une curiosité, mais je vais aller dans le camp d'en face, c'est du côté de Toronto, parce que Eric, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Toronto, finalement, ils ont gagné le match qu'ils ont largement dominé seulement grâce à un penalty. En plus, bon, on en a parlé tout à l'heure du penalty qui était un petit peu spécial et franchement malchanceux pour Montréal. L'autre, ils l'ont perdu. Donc moi, je me demande si Toronto, qui est quand même habitué à procéder à un style très habituel, qui a trouvé son équipe, qui sait quand même où il va essayer de changer quelque chose, parce que visiblement, lors de ces derniers matchs contre Montréal, ben c'était pas en tout cas aussi efficace que souhaité, et en plus l'équipe presse sur deux défaites. Donc c'est plus de ce côté-là que je suis curieux de voir si Greg Vanney va nous sortir quelque chose de son chapeau. On est habitué au changement de Thierry Henry, mais là, bon, pour le moment ça va bien, donc on peut peut-être s'attendre à revoir à peu près la même équipe, d'autant qu'il y a eu du repos alors que Toronto n'en a pas eu, et en plus ils viennent d'un gros voyage dans l'Ouest. Et en plus, à Toronto, faut pas oublier que Bradley est blessé, que Altidor n'est pas à son meilleur, Akinola revient de blessure. Donc, il y a pas mal de points d'interrogation, et ça va être intéressant de regarder l'adversaire. De toute façon, c'est toujours plus intéressant de regarder les deux équipes que de n'en regarder qu'une seule. Bon, passons au coup franc de la semaine, parce que on pensait, bon, on va pas avoir grand chose à dire, il s'est pas passé grand chose cette semaine. Bah, si, on a pas mal parlé, et il s'est passé quelque chose cette semaine. Annonce du côté de l'Impact de Montréal, notamment de Patrick Leduc, le nouveau grand Manitou de l'école de jeunes du club, qui a annoncé que, et oui, il y avait une équipe de moins de 23 ans qui allait être créée, ou plutôt qui remplace finalement l'équipe des moins de 19 ans qui existait. Et cette équipe devient, à toute fin pratique, c'est ça hein, qui se passe, c'est qu'au lieu d'être pour les 17-18 ans, ben c'est pour les 17-22 ans, et c'est une équipe de moins de 23 ans. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous? Coup franc, pleine lucarne, droit dans le mur, ou autre chose?
J'irais plutôt avec un coup franc dans la lucarne, même si, on va dire que c'est pas le plus beau coup franc de l'année. c'est sûr que le fait de donner une opportunité aux joueurs entre 19 et 22 ans était indispensable. Tout le monde était d'accord. C'est à cet âge-là, on a besoin de jouer. C'est un âge qui est vraiment important dans la professionnalisation finalement du joueur et dans sa capacité à percer. Donc évidemment, le fait d'offrir cette opportunité, c'est un vrai bénéfice. Après, c'est pas un bénéfice complet, dans le sens où il y a quand même il reste une étape à franchir, dans le sens où quand on joue que contre des jeunes, à un moment, il faut quand même se frotter aussi à des joueurs avec plus d'expérience, avec plus de muscles, avec voilà, plus de bouteilles, bref, des joueurs un peu plus expérimentés, et ça ne réglera pas ce problème. Évidemment, vous me voyez sans doute venir, mais on peut pas considérer ça comme une réserve à mon sens, puisque la réserve est comme un échauffement, un entraînement à la première équipe, alors que là, ce sera pas le cas, puisqu'il y aura pas tous les éléments que j'ai mentionnés, il y aura pas des trentenaires, il y aura pas tout ça, et que ça, c'est quand même un élément important. C'est d'ailleurs ce que Louis Binks me disait quand j'avais fait son entrevue pour Québec Soccer, me disait que c'était un problème en Angleterre et que lui était venu en MLS justement pour se frotter à des joueurs expérimentés. Donc, voilà, c'est un bénéfice parce que les jeunes joueurs vont pouvoir jouer, mais c'est pas un bénéfice complet parce que ça reste quand même partiel, on va dire, comme possibilité.
Ouais, j'abonde pas mal dans le sens de Quentin. Je pense que c'est un coup franc qui aboutit dans le but, mais qui dévie sur deux joueurs et puis qui passe entre les jambes du gardien, quoi. C'est bien, mais encore là, cette annonce, c'est typiquement Impact de Montréal, quoi. Déjà, on reçoit le communiqué, on le lit, et puis après ça, on le relit, et puis on le relit une troisième fois, et puis on se dit, ouais, mais elle va jouer où, cette équipe, exactement? C'est lunaire comme communiqué, ça. Moi, je comprends pas. Comment tu peux dire, comme, ouais, on est prêt à annoncer ça, alors que ton équipe, elle a pas de ligue, quoi. C'est complètement farfelu, quoi. Je veux dire, ça aurait vraiment, ça aurait coûté cher là, d'attendre 3-4 semaines que tout soit en place, puis que ça fasse du sens comme annonce. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais pas. Ça m'a découragé un peu tout ça en fait. Après, bon, à la lecture du communiqué, tu comprends finalement que, ben ouais, il y avait des U19 avant, donc les U19, ils disparaissent, donc on enlève cette catégorie-là, et puis on fait des U23 avec, donc t'as des types de 16 ans qui vont aller jouer contre des types de 23 ans. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas par où ça s'en va, je sais pas si c'est des bonnes décisions. Je pense que, honnêtement, je regarde l'Impact aller, je regarde le soccer nord-américain dans son ensemble aller, et je pense que je ne comprends tout simplement rien au développement de jeunes joueurs. C'est tout. Voilà.
De mon côté, c'est un coup franc, vous êtes gentil pour dire qu'il a été dans le but. Pour moi, il est bien parti, il a franchi le mur, donc c'est certainement pas un coup franc droit dans le mur, mais voilà, il y a eu un petit problème de connexion avec le réseau, et l'image s'est arrêtée, et on sait pas où va aller le ballon, peut-être qu'il va être dévié, peut-être que ça va aller juste à côté, peut-être qu'il va être dévié et que ça va finir dans le but, peut-être que le gardien va l'arrêter, peut-être que ça va finir sur le poteau, peut-être un poteau rentrant, on ne sait pas, le ballon est bien parti, il faut le reconnaître, mais maintenant ça dépend encore d'autres facteurs. Je pense que vous en avez énuméré quelques-uns. Déjà, Eric, il parle de pas de ligue. Moi, ce que j'ai trouvé lunaire dans le communiqué, c'est qu'on disait que Patrice Bernier aurait de nouvelles fonctions, mais on ne disait pas s'il allait rester entraîneur adjoint de l'équipe première ou pas. Qu'est-ce qui devient Bernier? Est-ce qu'il quitte l'équipe première? Est-ce qu'il, parce qu'il arrive à quand même avoir des choses à faire? Est-ce qu'il va plus accompagner l'équipe première en déplacement ou quoi? Ben, on sait pas trop.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Pour en revenir à la décision, en elle-même, faut dire que je suis pas exactement dans la même position que la plupart des gens du grand public quand j'ai écouté ça, parce que pour Québec Soccer, hein, il y a des gens qui... Il paraît que dans certaines émissions radio, on pose des questions, et que d'autres émissions radio répondent aux questions avant. Eh ben, à Québec Soccer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux questions avant même que vous les posiez, puisque dans le prochain Québec Soccer, il y a une interview avec un dirigeant très important de la MLS qui est derrière une réforme des compétitions de jeunes en MLS, parce que vous savez que les compétitions de jeunes où jouait l'Impact de Montréal avant c'était l'USSDA et maintenant ça a été repris par la MLS, et on a posé des questions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, et honnêtement il y a beaucoup de réponses dans cet article là, donc mercredi, hein, Quentin l'a dit,
absolument,
allez lire ça parce que vous comprendrez beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées dans le communiqué. Ça parle d'ailleurs d'équipe réserve, ça parle de catégorie d'âge obligatoire, de catégorie d'âge facultative, qui va faire quoi. Sachant cela, on voit un petit peu mieux la direction que ça prend. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore officielles, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore définitives, il y a des choses qui sont pas signées, ou des choses qui n'ont pas encore été annoncées. Donc, vous le disiez tous les deux, c'est bien d'avoir une équipe réserve, mais il faut se frotter à des joueurs plus aguerris. Est-ce qu'on va permettre aux joueurs de l'équipe première de redescendre en équipe réserve, parce que pour le moment c'est très hermétique. Est-ce que, je sais pas moi, un Boyan qui revient de blessure va pouvoir jouer avec cette équipe là,
ou qui ne revient pas de blessure
ou qui ne revient pas de blessure d'ailleurs, oui, qui a besoin de temps de jeu, on va dire, ce sont des choses qui sont évidemment importante. Est-ce que d'autres clubs pourront jouer dans ce championnat-là aussi? Pourquoi il y a d'autres clubs qui jouent en U17, en U19 maintenant? Pourquoi ces clubs-là ne pourraient pas continuer à un niveau supérieur, et peut-être eux justement avec leurs seniors qui ne sont pas au niveau des joueurs de MLS et auxquels les joueurs de MLS pourraient se frotter? Je ne sais pas, on va voir, mais honnêtement je vous dis, il y a énormément de réponses déjà dans le Québec Soccer de mercredi. Je sais pas, parce que moi je suis un peu j'ai écrit l'article, mais Quentin, toi qui l'as lu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être dites et expliquées déjà un petit peu en avant?
Bien sûr, ce qu'on peut synthétiser finalement, c'est que la MLS prend les choses en main au niveau de la formation. Ça, c'est quand même l'info finalement majeure, qui est que les choses avancent. Donc ça, c'est évidemment ça à retenir. Après, est-ce qu'elles avancent comme il faut? Est-ce que c'est abouti? Est-ce que c'est définitif, et est-ce que on va atteindre tout de suite des résultats. Ça, évidemment, c'est plus compliqué de l'affirmer parce que, bah, parce qu'il y a encore, tu l'as dit, beaucoup de choses en suspens. Donc on peut pas encore trouver ça optimal. C'est normal parce que ça ne l'est pas. Mais par contre, on comprend qu'il y a une vraie volonté de structure, etc. Alors, je sais bien que ça fait longtemps qu'on le dit aussi dans le soccer nord-américain. Et donc, ce que dit Eric, c'est sûr que on peut le comprendre parfaitement, que c'est parfois nébuleux, mais ça fait partie du mouvement, comme au Canada, ça se met aussi en place du côté de la CANPL et avec ce qui va arriver sur les ligues provinciales, etc. Bah, la MLS, c'est un petit peu pareil à l'échelle continentale, on peut même dire, puisque il y a les deux pays qui sont concernés. Mais et l'Impact faisant partie de la MLS doit aussi suivre ce mouvement-là. Donc, quand cette annonce est arrivée, puis je te rejoins sur ce que tu as dit sur Bernier, puis je rejoins aussi sur les Eric sur les réserves qu'il peut y avoir là-dessus, mais ça fait partie finalement de ce processus global. Après, est-ce que ça a été annoncé très clairement du côté de l'Impact? Ben non, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, le mouvement est en marche et l'Impact doit aussi suivre le mouvement que provoque la MLS. Donc c'est ça qu'on comprend quand on met un petit peu l'article qui va paraître et puis ce qu'on a appris cette semaine. Il y a le mouvement qui se crée. Après, il faudra voir où ça mène parce que bien malin qui peut dire ce qui va arriver.
Ouais, puis je peux rajouter une chose là-dessus aussi, c'est que la MLS reprend en main l'organisation des compétitions pour le moment. Ce qui a été annoncé, c'est 6 catégories d'âge de U13 à U19. Ça, c'est dans le communiqué de la MLS d'il y a plusieurs semaines. Donc, on ne parle pas encore de réserve. Ça, c'est une chose. Et on parle de U19. Et pourtant, en fait, la MLS, là-dedans, il y a des choses qui vont être obligatoire, il y a des choses qui vont être facultatives, et vous verrez dans l'article qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mis ailleurs. On parle d'équipe réserve, mais aussi sur les joueurs plus jeunes. Et ça va être au club de prendre les choses en main, et au club, finalement, la MLS va pas donner des directives, mais va donner, on va dire, une direction générale, et après, ça va être au club d'appliquer, d'exécuter les choses, finalement, en fonction de leur contexte à eux, de leurs désirs, de leurs moyens. Enfin, ils vont quand même avoir beaucoup de liberté, même la liberté d'avoir ou non certaines équipes, parce qu'on voit, il y a 6 catégories d'âge, ça a été dit par la MLS, et l'Impact, dans son communiqué, a dit qu'ils auraient U14, U15, U17 et U23. Donc, vous voyez que là, il y en a pas 6, donc, et certains clubs, eux, vont avoir toutes les catégories, c'est une évidence. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre, et donc ça aussi, ça va aider, quand vous aurez lu tout l'article, à remettre en contexte, à dire, ah tiens, l'Impact doit faire ceci, et peut faire cela, comment il le fait, et est-ce qu'on pense que c'est bon, est-ce qu'ils prennent les bonnes décisions ou pas, pourquoi, et donc ça c'est bien, ça va vous donner aussi du contexte, ça va vous permettre aussi de voir où exactement veut aller la MLS.
Et sur les plus jeunes, par contre, il y a un point, c'est que l'Impact a quand même mis en place les écoles de soccer, la pré-académie, il y a quand même des choses qui sont en place. Alors, on peut évidemment considérer que certaines affaires sont un peu des objets commerciaux, je pense aux écoles de soccer, mais quand même, la structure est déjà là, l'organisation est quand même plus ou moins en place.
Les dirigeants de la MLS disent, par exemple, quand la France a été championne du monde en 98, Aimé Jacquet expliquait que les joueurs, quand ils avaient entre 6 et 12 ans, ils ne jouaient pas forcément, et la plupart d'entre eux ne jouaient pas déjà dans un club professionnel. Donc il faut aussi que les clubs de MLS arrivent à avoir une influence finalement sur les clubs dont vont venir les joueurs, sans les forcer à arriver tout de suite, et en permettant à ces joueurs de se développer à un âge qui est très important, tout en restant près de chez eux dans un environnement confortable. Donc vous voyez, il y a énormément de choses en jeu, et qu'est-ce que t'allais dire, Quentin?
Mais Montréal a déjà commencé ça aussi avec leur CIP. Oui. Alors je sais plus ce qu'ils appellent, comment, ce que ça veut dire là, leur appellation.
Mais je voulais juste pas dire que Montréal le faisait pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui s'étend, qui est très très large.
Je reste de l'avis que c'est très 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 malsain comme système, ça. Je comprends pas comment on peut laisser une ligue s'accaparer de l'ensemble du soccer élite d'un continent. Et qui va aller dire au club du coin, finalement, que bah, si tu veux jouer avec nous, il faut que ça se passe comme ça.
La CANPL fait pareil. Ils ont racheté la Ligue 1 Ontario, ils vont en faire de même avec la PLSQ, ça va fusionner. Je veux dire, ils ont l'intention de faire faire trois ligues mineures pour recueillir leurs futurs joueurs, etc. Je veux dire, ça fonctionne de la même façon. Après, la faiblesse des associations comme Canada Soccer ou comme des fédérations, je veux dire, ça c'est un autre débat et on peut en parler. Puis c'est sans doute un débat qui est légitime, mais ce que fait la MLS finalement, on l'avait déjà aussi en CANPL, c'est la tendance que ça prend. Et donc une fois que cette tendance là, on a dit on va là-dedans, il faut que les ligues l'assument. En tout cas, je défends pas parce que ton point est intéressant, puis c'est vrai que les fédérations devraient être sans doute plus fortes, mais étant donné le contexte actuel et la façon dont le soccer tourne aux États-Unis, c'est sûr que cette sorte de privatisation, elle est en cours, ça c'est sûr.
La meilleure chose à faire pour se faire un avis éclairé sur le sujet, je vous invite, ceux que ça intéresse, il y a quand même pas mal de monde parmi vous qui s'intéresse aux compétitions de jeunes, notamment à l'équipe réserve, c'est d'aller relire calmement le communiqué de l'Impact de Montréal, de lire évidemment l'article dans Québec Soccer, d'aller lire aussi les communiqués de la MLS, et après de vous renseigner aussi de ce qui se dit, de ce qui se fait ailleurs, d'aller voir un petit peu les anciens clubs qui jouaient dans l'USSDA pour voir un peu ce qu'ils en pensent, de regarder un peu ce qui fait ailleurs dans le monde. Puis quand vous aurez une vue d'ensemble, évidemment, vous allez vous poser davantage de questions, et je suis sûr que vous allez avec ça faire vos propres recherches. Et vous voyez un petit peu, on a mis de l'enthousiasme dans ce débat là parce que c'est important, parce qu'une bonne formation, ça va assurer un bon avenir à nos clubs qui jouent en MLS ou ailleurs. L'émission se conclut, et avant de terminer, je voudrais simplement dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous nous retrouvez à notre horaire habituel, c'est-à-dire qu'on sera en ligne le mardi matin. Merci beaucoup Eric et Quentin pour cette émission Coup Franc. Vous le savez que vous pouvez retrouver sur Vioparc, qui a la gentillesse de nous héberger, sur ImpactSoccer.com et sur vos diffuseurs habituels. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.